Maël Hassani, bonsoir Maël.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Nous changeons la face du Moyen-Orient. Les mots de Benjamin Netanyahou à la télévision ce soir. Au quatrième jour de la guerre entre l'État hébreu et l'Iran, le Premier ministre israélien assure que son armée est en train d'éliminer un par un les membres du haut commandement militaire iranien et n'exclut pas de tuer le guide suprême Ali Khamenei. Depuis le Canada où se déroule le sommet du G7, le président américain Donald Trump appelle Téhéran à négocier avant qu'il ne soit trop tard. La capitale iranienne touchée par de nouvelles frappes aujourd'hui, notamment sur le bâtiment de la télévision d'État. Une présentatrice contrainte de fuir son plateau sous une pluie de débris en plein direct. L'Iran condamne un acte ignoble et un crime de guerre et appelle ce soir à évacuer les bureaux de plusieurs chaînes de télévision israéliennes. Je suis atterré par le fond et la forme. La réaction de la députée Renaissance des Français établie en Israël, Caroline Yadan, invitée d'Europe 1 Soir. L'élu s'insurge face à la décision du gouvernement d'interdire l'accès à plusieurs stands d'industriels israéliens de l'armement au Salon du Bourget. Le Premier ministre François Bayrou justifie ce choix par une volonté de prendre ses distances avec les opérations militaires israéliennes à Gaza. Après avoir qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, Jérôme Guedj dit ce soir qu'il regrette avoir utilisé le terme salopard, mais maintient qu'il considère comme antisémite le leader insoumis. Le député PS, auteur d'une violente diatribe ce week-end lors du congrès de son parti, LFI réclame toujours des excuses. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau saisit la justice après les propos de l'imam de Massy visant Gabriel Attal. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le religieux menace de lancer une fatwa à l'encontre de l'ancien Premier ministre, lui reprochant notamment sa volonté d'interdire le port du voile pour les fillettes de moins de 15 ans. Des centaines de pompiers réunis à Laon, dans l'Aisne, en début d'après-midi, pour un hommage national aux deux pompiers volontaires tués dans l'effondrement d'un immeuble ravagé par les flammes la semaine dernière. Les deux soldats du feu récompensés par la Légion d'honneur à titre posthume. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau loue le courage et le civisme engagés des deux victimes. Une prime pour les salariés seniors qui décident de rester au travail. Idée avancée par le Premier ministre François Bayrou à la veille de la dernière réunion du conclave sur les retraites. Pour le moment, aucun consensus ne semble se dégager entre partenaires sociaux pour améliorer la réforme de 2023. Une partie des services déjà rétablis et un retour complet à la normale espéré au cours de la soirée. SFR victime d'une panne d'envergure. Aujourd'hui, le réseau téléphonique et internet indisponible depuis la mi-journée pour de nombreux clients. Plus de 10 000 signalements effectués auprès du site spécialisé Down Detector. Et puis Kering officialise l'arrivée de Luca De Meo au poste de directeur général. L'actuel patron de Renault va donc se reconvertir dans le luxe après 5 années à la tête de la marque aux losanges. Vous écoutez Europe 1, il est 21h02 et vous retrouvez Elisabeth Assayag pour La France Bouge.
Merci Maël Hassani, on vous retrouve à 22h pour un prochain point sur l'info. Tout de suite, La France Bouge dans le monde du cheval. Eh oui, à tout de suite.
Europe 1.
Bonjour, c'est Christophe Ondelat.
Ondelat raconte.
En août 2018, à Frederick, dans le Colorado, Shannon Watts et ses deux petites filles de 3 et 4 ans disparaissent. Son mari, Chris, est vite dans le viseur. Il affirme qu'après une dispute conjugale, Shannon et les deux gamines ont trouvé refuge chez une amie, mais il est incapable de dire laquelle.
Ondelat raconte.
On se retrouve demain, de 14h à 15h, sur Europe 1.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La France bouge.
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission des entrepreneurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat et des pépites françaises. Au sommaire ce soir, au lendemain du prix de Diane qui a eu lieu à Chantilly dans l'Oise, c'est 176e édition, on a eu envie d'aller voir ce qui se passait du côté de la filière équine. Pour en parler, l'un des géants de l'équipement du cheval et du cavalier, c'est une entreprise alsacienne qui a acquis une marque que vous connaissez peut-être si vous êtes fan de chevaux. Cette marque, c'est Pénélope. Bonsoir Pascal Gautrin.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France Bouge, CEO du groupe Ekia Sport.
Exactement, merci de votre invitation.
De KIA, on est très content de vous avoir. Ce soir, comme chaque soir dans La France Bouge, un coach, c'est une coach ce soir qui va accompagner et soutenir la start-up. Elle adore les chevaux, elle a même fondé une entreprise autour de cela. Bonsoir Anne-Sophie Bonnel.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France Bouge, fondatrice et présidente de Horsicar. Pour une fois, vous êtes coach et c'est dans votre domaine.
Exactement.
Racontez-nous Horsicar en deux mots.
Oui, Horticar, c'est une marketplace, donc une plateforme collaborative qui permet de mettre en relation des locataires et des propriétaires de transport de chevaux.
Eh ouais, ça nous intéresse tous. Très heureuse de vous retrouver, Anne-Sophie. La start-up de ce soir, pour vous, en un mot.
Alors, la start-up de ce soir, elle m'a particulièrement intéressée, et notamment parce que dans le monde équestre, on est encore très en retard en matière d'innovation et on a besoin de start-up qui sont capables d'améliorer à la fois le confort des chevaux et celui des professionnels.
Mais c'est quoi un adjectif pour l'incarner?
Novatrice.
Cette start-up propose une technologie capable d'optimiser la santé, le bien-être des chevaux en identifiant très rapidement des comportements anormaux. Bonsoir Victoria de Pomerol.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue CEO, cofondatrice de Novo Senso, c'est le nom de votre entreprise. Et puis en fin d'émission, on va retrouver Virginie Godin. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Elisabeth.
Directrice générale de Vue Paris. Alors c'est une agence de communication, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que vous êtes cavalière et vous venez d'ouvrir un département équestre.
Absolument, un département dédié aux cavaliers, aux organisateurs de concours et aux marques du monde équestre à l'intérieur de l'agence.
Ça marche bien ?
Ça a l'air de bien marcher.
Allez,
ça
vous allez bien. Tout nous raconter. Allez, la France bouge, c'est parti. La console, c'est Christophe Pirot. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1.
Europe 1.
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval.
L'équitation très populaire en France, de plus en plus de gens s'y intéressent, hein. Ça date depuis le début du XXe siècle. Fin 2022, la Fédération Française d'Équitation a compté 625 258 licenciés. Cela place l'équitation comme le troisième sport le plus pratiqué dans le pays. Alors, qui fait du cheval autour de la table? Donc, on a Virginie Godin,
oui.
Victoria, oui, Anne-Sophie.
Bien sûr.
Et le patron du jour et le patron du soir, il n'en fait pas. Mais je crois que tous vos salariés sont en
fond. Oui, l'ensemble des 300 salariés sont cavaliers.
Louise Morin posait la question à des passants ce matin dans les rues de Paris au micro. Europe 1, écoutez.
Alors oui, j'ai déjà fait de l'équitation, une dizaine d'années à peu près. Je me suis arrêtée au galop 3 parce qu'après je préférais monter par plaisir. Justement, c'est ça qui me plaît le plus dans ce sport, c'est moins les compétitions justement, mais ça va être plus les balades, etc. Et je trouve que c'est là où on apprend encore plus à connaître bien les chevaux justement, et c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est aussi le respect, comprendre comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils fonctionnent.
Alors j'ai toujours pratiqué de l'équitation, j'en ai fait très longtemps, depuis toute petite. Et ce que j'aime vraiment dans ce sport, c'est le contact avec l'animal, c'est la progression qui peut, si on en fait vraiment régulièrement, plusieurs fois par semaine, et c'est vrai que ça permet de progresser très vite, d'avoir une grande marge de progression et d'avoir vraiment un contact avec des animaux et avec la nature.
Alors oui, j'ai fait de l'équitation pendant 9 à 10 ans. Quand j'étais jeune, ce qui me plaisait dans ce sport, c'était à la fois la connexion avec l'animal, le fait de pouvoir faire des balades, de découvrir les forêts, les jolis coins autour du centre équestre. Et j'aimais aussi l'adrénaline, parce que bon, quand on se rend compte que c'est un animal qui fait quand même plusieurs tonnes et qui est assez imprévisible, ça remet un peu les choses en perspective.
Vous avez eu de l'adrénaline, vous, Anne-Sophie? Vous continuez à en faire, Anne-Sophie, du cheval?
Ah oui, beaucoup.
Galop quoi?
Galop 7, mais
ah
c'est...
Ah ouais, on
c'est indispensable pour faire de la compétition.
Oui. Et vous faites de la compétition, Anne-Sophie?
Oui, beaucoup.
Génial. Allez, ce soir, des entrepreneurs dans cet univers du cheval, des dirigeants. Un dirigeant d'une entreprise alsacienne, c'est le spécialiste de l'équipement équestre.
Europe 1, l'invité de la France bouge.
Avec vous, Pascal Gautrin, vous êtes le CEO du groupe Ekia Sport. Vous êtes CEO depuis 2019, mais ça fait plus longtemps que vous êtes dans l'entreprise. D'abord, il y a le rituel de la France bouge, c'est-à-dire qu'il faut pitcher. Même si l'entreprise a plusieurs années, il est temps de pitcher pendant une minute, comme si vous deviez nous convaincre d'acheter Ekia. C'est à vous, vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Ekia, c'est quoi?
Alors, Ekia Sport, c'est un équipementier basé en Alsace, créé en 1974, qui conçoit, fait fabriquer et distribue des produits pour le cheval et pour le cavalier. Notre offre touche tout type de produits, que ce soit du textile, du chaussant, des articles de sécurité, du soin, jusqu'aux peluches pour l'accessoire. Nous gérons 7000 produits, 15000 références, donc une offre pléthorique. Nous distribuons ces produits dans notre propre réseau de 100 magasins sous l'enseigne PAD et en ligne également, mais aussi en B2B via 2700 revendeurs dans le monde entier, dans 67 pays, 800 en France. Et clairement, le groupe est un groupe omnicanal B2B2C.
Ça y est, c'est tout ? Très bien, merci. Merci de vous être prêté à l'exercice du pitch, Pascal Gautrin, CEO du groupe Ekia Sport. Donc si je comprends bien, vous distribuez des équipements pour les cavaliers et pour les chevaux à travers la France, mais aussi à travers le monde. Vous avez 100 magasins en nom propre, ce sont vos magasins ?
Alors nous avons 100 magasins PAD, 40 sont en propre.
PAD,
donc PAD a été créé en 1974, moi j'ai développé la branche retail donc du groupe depuis 1990. À l'époque, nous avions un seul magasin, donc maintenant 100 magasins. Et à partir de 2006, nous avons décidé d'accélérer en lançant des franchises. Donc maintenant, 60 de nos magasins sont des partenaires dans toute la France en commission d'affiliation, c'est-à-dire que nous possédons le stock et eux investissent sur le local et sur le personnel.
Alors, comment vous concevez ? Vous faites fabriquer dans le monde entier, hein, via vos magasins, mais vous n'êtes pas propriétaire ? Des magasins.
On est propriétaire de 40 de nos magasins.
40 donc, sur les 100.
Voilà, et sur les 100, et 60 sont en partenariat, en franchise.
D'accord. On l'a vu, le monde du cheval ne cesse de grandir, d'avoir de plus en plus de fans. Comment ça va ? On est dans un contexte compliqué, on le sait. Comment ça va pour vous du côté de chez Ekia Sport en 2025 ?
Alors, ça va plutôt pas mal, puisque les 4 dernières années, nous avons fait une croissance de plus de 40%, pour passer de 60 millions,
40%.
65 millions à pratiquement 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, évidemment, il y a plein d'explications. On a retravaillé notre offre depuis les 5 dernières années. On a une chance, c'est qu'on est sur un marché de passion. Enfin, ça, c'est un mot qui va revenir souvent. On est sur un marché féminin.
C'est ce qui vous relie tous, hein, j'ai l'impression, ce soir. Hein. Et même les personnes qu'on a entendues dans les propos recueillis par Louise Morin dans
la rue. Exactement. Et si vous voulez, en période de crise, le seul point que vous n'avez pas envie de sacrifier, c'est votre passion, quoi. Donc vous allez éventuellement acheter moins de vêtements ou des vêtements moins chers, mais vous n'allez pas sacrifier votre cheval et surtout pas les pratiques que vous préférez. Mmh. Donc on est sur un marché qui est porteur. Bien évidemment, il faut faire attention à ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on propose des produits, des petits prix, hein, par exemple des casques à 29,90, mais aussi des casques à 800 euros pour vous donner un petit peu le panel de notre offre.
Ouais.
C'est complètement
donc il y en a pour tous les budgets et tous les goûts. Donc 40% de croissance, ce qui est quand même exceptionnel. Moi, ça me surprend. Anne-Sophie, vous êtes surprise ?
Oui, je suis surprise aussi. Je l'ai même noté sur mon petit papier. C'est impressionnant.
Ben oui. Pourquoi ? Donc vous l'expliquez par là. Alors, ce sont des passionnés, donc ils mettent toutes les économies,
C'est pas l'image du marché. Hein. Le marché n'a pas explosé de 40%, mais si vous voulez, on a une société qui est créée depuis 1974, comme je vous l'ai déjà dit. On a connu, comme toutes les sociétés, des hauts, des bas. Et en 2018, on était plutôt dans une période basse. On a décidé de tout changer et en fait de redemander aux consommateurs ce qu'ils voulaient, hein, tout simplement.
Comment d'aller dans le magasin. Vous êtes allé, ouais.
On a posé des questions, hein, tout simplement. Quand vous avez un réseau de 100 magasins, les gens vous parlent, vos responsables de magasins vous parlent, vous avez vos fournisseurs qui vous proposent des produits. Et donc,
veut dire que vous avez innové dans les produits, vous êtes allé vers des produits niches. Voilà. Où avez-vous arbitré ? La part du numérique représente quoi chez vous ?
Alors, le numérique représente 12% de notre chiffre d'affaires.
Ouais, donc c'est pas là-dessus que ça se passe.
C'est plutôt dans la moyenne du sport. En fait, on a attaqué tous les segments, c'est-à-dire qu'on a pris tout ce que nous demandaient nos consommateurs, c'est-à-dire on voulait des petits prix, on voulait des produits techniques, donc on a accéléré par exemple sur notre offre en ce moment sur les airbags, qui est le produit phare du moment, on vend 15 000 airbags par an, c'est colossal, c'est produit de sécurité à la mode en ce moment.
Donc Pascal Gautrin, vous êtes le CEO du groupe Ekia Sport ce soir sur Europe 1, ça veut dire que... On mise sur la sécurité, c'est là où on va arbitrer, c'est là où on va mettre l'argent.
En tout cas, c'est là où effectivement... Alors, l'équitation, il ne faut pas faire peur à tout le monde, ce n'est pas un sport dangereux, c'est
non,
un
sport
à risque.
Non, mais c'est majeur, la sécurité. Il y a une étude qui a été publiée dans le très sérieux British Medical Journal qui dit qu'à durée de pratique égale, les risques de blessures qui nous mènent à l'hôpital sont plus élevés dans l'équitation que dans d'autres sports comme le ski, la course auto ou encore le football américain. Est-ce que vous confirmez ça, Anne-Sophie ?
J'ai pas de statistiques,
non,
j'ai pas fait d'études,
mon ressenti, c'est oui, plutôt. Oui, c'est dangereux. Donc,
c'est
on va vers la sécurité.
C'est pas un sport dangereux, effectivement. Enfin, nous, on a du mal. Maintenant, c'est clair que les fabricants et nous-mêmes, on a poussé pour une meilleure pratique, parce que c'est quand même un sport où on chute quand même assez régulièrement, ça fait partie de l'apprentissage, et quand vous chutez, vous avez besoin d'un casque, et vous avez besoin d'un airbag, bah évidemment, qui vous couvre de façon un petit peu plus complète. Donc
vous vendez, produit phare, les airbags?
En ce moment, oui, c'est le produit phare.
Pour tous les âges?
Pour tous les âges.
C'est quoi, c'est un airbag? C'est ce qu'on met autour du buste, c'est
vous
ça
êtes vous êtes relié à votre selle, et quand vous tombez, vous avez un déclenchement qui D'accord. se fait via une pression, et à partir de 32 kilos.
Donc ça vous fait sourire, Virginie Godin. Vous avez un airbag, vous, quand vous montez?
Bien sûr, ouais, tout le monde devrait
vous
en avoir.
Vous aussi?
Oui, tout à fait.
Ma fille n'en a pas, je vais remédier cela. Donc, les airbags, combien, prix moyen?
450 euros. Ça démarre à 300, ça va jusqu'à 800 euros sur le marché, à peu près.
Victoria, de Pomerol?
Oui, bah c'est vrai que la sécurité a quand même beaucoup améliorée. C'est super, ces airbags. Après, il y a des versions plus simples, hein, qui sont juste des vestons. Des,
oui. Qui ne sont pas des airbags.
Mais qui ne sont pas des airbags. Ils vont quand même protéger typiquement pour les enfants. On est plus sur des gilets coques. Hein,
des petites dorsales. Oui.
Voilà. Des petites dorsales. Ce qui signifie que les équipementiers, on l'a vu, se sont lancés dans ces innovations pour limiter le risque lié à cette pratique de l'équitation. Vous avez tout une partie dédiée à la sécurité. Ça représente quoi sur vos références, la sécurité?
La sécurité représente 15% de notre chiffre d'affaires, donc c'est important. C'est quand on parle de gilets, mais aussi de casques.
Il y a les casques, les gilets, les airbags, il paraît les étriers dans la sécurité.
Les étriers, les chaussures de sécurité sont en développement, les chaussures à coque.
C'est plus les bottes en caoutchouc?
On voit encore des bottes. Pas tellement en caoutchouc, des bottes en cuir principalement, mais de plus en plus dans la pratique, vous vendez dans les MFR, dans les écoles d'équitation, vous avez des boots avec des bouts coquets, donc ils sont en plein développement.
Mm-hmm. Donc la sécurité 15% et le reste, c'est quoi? Comment, en fait, j'essaie de comprendre la croissance de 40%, donc c'est pour ça que je vais dans le détail.
C'est clairement l'offre du groupe Ekia qui a changé quand même depuis 5 ans. Donc quand on échangeait avant cette émission, on a fait l'acquisition d'une petite pépite qui s'appelle Pénélope, la marque Pénélope Le Prévost, comme tout le monde connaît, donc la cavalière iconique. Donc on a racheté cette société en 2017. Pénélope, c'est la rencontre entre un industriel, une cavalière et sa copine d'enfance, Céline Leroux, donc une designeuse, et qui fait que de 700 000 euros, on est passé à 11 millions d'euros l'année passée. Donc une véritable success story. Donc ça a attiré beaucoup de marques de notre groupe derrière.
Donc c'est en faisant des acquisitions que vous arrivez aussi à afficher une telle croissance. Vous avez acquis de nombreuses... Là, vous nous parlez de Pénélope. On va y revenir dans un instant sur Pénélope, parce que c'est quand même un sujet important. Toutes les jeunes cavalières admirent Pénélope et tout cet univers-là. D'autres entreprises que vous avez pu racheter?
Entre-temps, on a racheté, il y a 2 ans et demi, le numéro 1 français du web. Un site assez connu auprès des cavaliers, Olala.
Qui... Mais du web dans l'équitation,
toujours,
c'est pas Google.
Toujours en équitation, on ne sait faire que ça, nous.
Oui. L'équipement des et c'est quoi, donc c'est un site internet?
C'est un pur player qui opère en France.
Ils vendent quoi?
Tout l'équipement du cheval du cavalier, 55 000 références, dont une partie de nos produits, bien évidemment.
Anne-Sophie, vous avez peut-être une question pour Pascal Gautrin, patron d'Ekia Sport.
Moi j'aimerais revenir sur vos partenaires qui sont en commission d'affiliation.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est vos franchisés, c'est ça?
Exactement.
Donc les franchisés.
Oui, parce que je pense que ça intéresse sûrement beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer, travailler dans le milieu du cheval.
Passionnés, on voit que ce sont des passionnés. On ne peut pas tous travailler dans un centre équestre. Donc effectivement, Anne-Sophie, vous avez raison.
J'aimerais savoir, parce que ça intéresse peut-être des auditeurs, est-ce que vous en recrutez? Quels sont vos critères de recrutement
pour avoir une franchise, tout simplement, Ekia?
Alors, c'est une bonne question. Vous parlez de passion. La première publicité que nous avons lancée en 2007, c'était « Vivez de votre passion, ouvrez un magasin PAD ».
Ekia, c'est le nom de la raison sociale, mais pour qu'on vous reconnaisse,
PAD.
PAD.
PA2D.
PA2D.
Et donc, quand on a fait cette pub, on a reçu en 2 mois 800 candidatures. Pour la petite anecdote, ça arrivait sur mon BlackBerry à l'époque, ça fait sourire les jeunes.
Oui,
j'étais débordé, donc ça n'arrêtait pas. Et donc, on a ouvert 4 magasins en 2008. Donc, la particularité de la commission d'affiliation, c'est que si vous voulez ouvrir un magasin PAD, on choisit la région ensemble, on va vous aider à choisir le local, à faire les travaux, c'est vous qui allez finir ces travaux, et nous, on vous apporte le stock, et on gère le stock pour vous. Ça vous évite de faire toutes les erreurs d'achat inhérentes à un chef d'entreprise qui va démarrer, qui veut... faire des achats, je dirais, affectifs et absolument pas raisonnés. Donc nous, on apporte notre connaissance du marché et une gamme complète de produits. Donc on a démarré en 2008.
2008, démarrage de la franchise.
Exactement. Maintenant, nous sommes à 60 magasins. Et la particularité, c'est que plus de 50% de nos franchisés ont deux magasins ou plus. On a un franchisé en Bretagne qui a 5 magasins maintenant. Donc, une ancienne banquière, donc qui n'avait pas du tout le profil. Vous posiez la question, c'est quoi le profil? C'était des entrepreneurs. Donc, vous voyez arriver une banquière, vous dites, qu'est-ce que vous allez faire dans l'équitation? Elle vous dit, c'est la passion.
C'est
quoi.
Ma passion.
Et
donc,
depuis, elle a ouvert 5 magasins.
C'est quoi le ticket d'entrée pour être franchisé IKEA Sport?
C'est un apport de 50 000 euros, à peu de choses près, d'apport personnel pour un investissement de 150 000 à 200 000 euros en fonction de la taille du magasin
c'est
que vous
allez
avoir.
C'est beaucoup, Anne-Sophie?
Ça me semble relativement abordable.
Je demande à Anne-Sophie, parce qu'au-delà d'avoir Orsicar, c'est aussi le réseau Willa. Hein,
Oui, tout à fait. Si on compare à quelqu'un qui crée sa société, c'est quand même un montant qui reste très accessible.
Ça reste accessible.
Parce qu'on finance une partie du stock. Hein, la totalité du stock, c'est l'intérêt de ce partenariat.
D'accord. Et il y a un critère sur la région. Est-ce que c'est à la périphérie des grandes villes? Alors, c'est quoi?
Au tout début, on avait décidé de viser que les grandes villes. Puis évidemment, vous ne tombez pas forcément sur les candidats que vous voulez. Donc finalement, vous ouvrez sur des petites villes, des villes intermédiaires. Et en fait, on découvre notre marché au fur et à mesure de notre croissance. Parce qu'il y a quelques années, on espérait monter à 30 magasins, après on s'est dit 50, finalement 80 on va être maxi, on va être à 100, enfin nous sommes à 100 et on ambitionne 130. En fait, on pense qu'on peut monter un magasin pâte pratiquement toutes les 30 ou 45 minutes, quoi, pour faire clair.
Ça me paraît exceptionnel.
Oui, enfin je suis pas surprise de la demande.
Je suis surprise, vous y connaissez Anne-Sophie, vous êtes cavalière et vous avez fondé Orsicar, mais moi je ne connais pas cet univers, c'est assez exceptionnel dans le contexte actuel.
Oui, je pense qu'on sous-estime le nombre de cavaliers en France.
Et pourtant il y en a beaucoup, vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge, Pascal Gautrin, CEO du groupe IKEA Sport, à suivre, on va rester dans les chevaux, avec une start-up d'Annecy, c'est ça?
Oui,
elle est née en 2019, là aussi, Victoria de Pomerol, passionnée, qui a grandi avec des chevaux. Elle a fait des études de commerce et elle est retournée à ses premiers amours. Sa boîte utilise l'intelligence artificielle au service du bien-être animal. Ça s'appelle Novo Senso. On en parle après David Damiano, Next Summer sur Europe 1. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Next Summer sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. 21h, 22h.
Elisabeth Assayag.
Et bon choix de Christophe Pirot, notre réalisateur. Bienvenue dans la France bouge si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans cette France qui bouge ce soir dédiée à nos chevaux, 26 742 entreprises en France dédiées à la filière. Donc ça peut être les cavaliers, les chevaux. Nous en parlons avec Pascal Gauterin, le CEO du groupe Ekia Sport. Ekia, c'est la raison sociale, mais peut-être connaissez-vous les magasins PAD, P-A-D-D. Si vous êtes fan de chevaux, c'est sûr que vous y êtes déjà rentré. Il nous disait, Pascal Gauterin, avant la pause musicale, qu'il était en croissance de 40%. C'est ce qui est quand même complètement exceptionnel. Quand on sait que dans le retail, ça ne cesse de fermer, Auchan, Jiffy, etc., toutes ces boîtes qui promotent, il y en a beaucoup qui ferment. Et vous êtes face à la concurrence chinoise. Vous, en plus de ça, on peut le dire, vous êtes dans la France Bouge, entreprise alsacienne, vous avez 300 emplois en France, mais n'empêche que les trois quarts de vos produits, vous ne les faites pas fabriquer en France.
Alors, effectivement, 70% de nos produits viennent de... sont entre la Chine et l'Inde. Évidemment, quand on vend un pantalon à 100 euros, on ne peut pas le produire en France. Malgré tout, on continue de produire certains produits, des casques techniques, par exemple, comme Naka.
Ça, c'est français.
Ça, c'est 100% français. C'est fait à Toulon. Des airbags qui sont faits en collaboration avec la société Free Jump. Donc, pareil, montés en France. Maintenant, il faut que ce soit des produits à forte valeur ajoutée, hein, tout simplement.
Donc, pendant qu'on voit qu'il y a des enseignes dans le retail qui baissent le rideau, vous affichez une croissance exceptionnelle. C'est quoi l'agencement? Et vous le disiez, c'est 12% le trafic, les ventes dans le numérique. Donc, c'est l'expérience. C'est aller dans vos magasins. C'est quoi? Ça ressemble à une grange? C'est quoi vos magasins? Ils ressemblent à quoi? Une écurie? Vous nous donnez envie de tout acheter? Non, mais racontez-nous l'expérience client, c'est important.
Alors, pour une jeune fille, puisqu'on va dire que c'est la clientèle typique, 15-25 ans, c'est notre cœur de cible. 85% de femmes c'est la clientèle en équitation. Alors, on se doit d'avoir un choix. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, quoi. On se dit souvent le mercredi après-midi, par exemple, vous avez les mamans qui déposent leurs enfants chez nous.
Et, c'est vrai?
Ah oui, vraiment. Elles viennent avec des listes de courses, elles passent l'après-midi, on fait garderie dans les magasins PAD. Donc, on parle d'expérience client. On a des magasins qui vont de 200 mètres carrés à 600 mètres carrés. On essaye évidemment d'être le plus chaleureux possible. Et puis, le numéro un, c'est l'accueil, quoi.
Et puis, vous le disiez, ce sont tous des passionnés. Vous parliez des jeunes filles. C'est vrai que c'est le premier sport pratiqué pour les femmes. C'est le troisième sport le plus pratiqué en France, mais ce sont les femmes. 85% des licenciés sont des femmes. Comment vous l'expliquez autour de la table? Même nos passionnés ce soir sont des femmes. Anne-Sophie, Victoria et Virginie. Une personne veut répondre? Non.
Mais si,
alors, Anne-Sophie.
Non, mais alors, je trouve que c'est
Victoria,
très bien.
Victoria de Pomerol.
C'est principalement des femmes. On va dans les poney clubs, dans les écoles.
Oui.
Et en même temps, à très haut niveau.
Ce sont des jockeys.
Des hommes, mais
ça change.
Des cavaliers.
Alors c'est en train de changer doucement, mais je pense que le côté affectif, mais on voit, moi j'ai une petite fille, un petit garçon, ma petite fille elle adore soigner le poney, le brosser, s'en occuper, lui faire
c'est
des bisous.
C'est bizarre que ce soit genré aussi.
Lui,
ça.
Alors que mon fils va préférer monter sur le poney, jouer avec les copains, ouais. Et c'est vrai que c'est ce côté, je sais pas, vraiment leur relation avec l'animal.
Qui est assez exceptionnel. Anne-Sophie, vous voulez ajouter?
Oui, non, tout à fait, je suis complètement d'accord avec ça. J'allais dire peut-être qu'il y a aussi dans l'éducation des parents le fait qu'on va peut-être plus facilement inscrire une petite fille au poney, à la danse, donc il y a peut-être encore...
Non, je crois pas, moi j'inscris les deux, il y en a une qui est restée. Hein. Et l'autre, elle n'a pas d'ailleurs. Voilà. Donc, vraiment.
J'ai les deux, mais ils font pratiquent pas pareil. Ils n'ont pas le même.
Pascal Gauterin, patron des
caresses. Dans les poney clubs, en fait, les petites filles passent 3 heures minimum. C'est-à-dire qu'une heure pour préparer leur poney, une heure pour monter et une heure pour le soigner. Alors que le petit garçon, il arrive, mon poney, il n'est pas prêt. Alors, il va le préparer rapidement. Il va trouver une copine qui va lui aller la préparer. Il monte.
Oh,
et après, il faut le brosser. Ça ne l'amuse pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas s'il y a un problème d'éducation, mais en tout cas...
Je les ai élevés pareil, hein.
Oui, c'est ça.
Mais ce n'est pas les mêmes affinités.
Dans vos salariés aussi? Beaucoup de femmes passionnées?
Tous les salariés sont cavaliers, c'est évident.
Et, c'est une majorité de femmes?
85% de femmes, donc...
Donc il y a évidemment quelque chose. L'équitation est le seul sport olympique où les animaux participent à la compétition avec les humains. Il faut donc que l'animal se porte bien. Et nous, dans la France Bouge, comme chaque soir, on a déniché une start-up. Celle de ce soir, elle utilise l'intelligence artificielle au service du bien-être animal.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
C'est vous la pépite de ce soir, Victoria de Pomerol. Vous êtes la cofondatrice de Novo Senso, entreprise qui est née en 2019. Elle est quand même récente, elle a 6 ans.
Oui et non, ça fait déjà 6 ans.
Ah ouais, bon, bah moi je trouve ça bien c'est jeune quand même, vous êtes en pleine expansion, elle est née à Annecy. Vous avez grandi avec des chevaux.
Oui, tout à fait, en fait, j'ai la chance d'avoir des chevaux à la maison. Voilà, c'est une passion, tout à fait, hein, c'est une passion. Et quand on l'a, on ne peut plus s'en passer. Quoi.
Donc vous avez toujours baigné dans ce milieu, mais ça ne vous a pas empêché de faire des études, école de commerce.
Tout à fait, école de commerce et de management à l'étranger. Une carrière, on va dire, classique en finance et en marketing digital.
Donc, carrière classique, vous êtes même allée travailler dans un cabinet, je crois, de finance.
J'ai commencé ma carrière, oui, dans un Big Four, chez PwC en Belgique, en finance, audit.
Et puis, vous avez lancé votre première entreprise dans les énergies renouvelables.
Oui,
donc déjà, l'entrepreneuriat, ouais. Ça vous titillait.
Oui, ça, depuis toute petite, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et cette première expérience a été très bien, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je le fasse dans un domaine qui me passionne vraiment.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic qui fait que vous allez vers Novo Senso? Et après, vous allez pitcher, évidemment. Ouais. Mais il se passe quoi entre des études de finance, les Big Four, une boîte dans les énergies renouvelables? Comment allez-vous vers le monde équestre?
Donc après, entre-temps, j'ai presque travaillé quand même 10 ans pour des agences digitales, des projets très dans l'IT. En montant, mais sans vraiment m'amuser, m'éclater dans mon job. Donc cette envie entrepreneuriale qui était toujours là, mais il fallait trouver la bonne idée. C'est que voilà, je sais qu'il y a des gens qui peuvent juste entreprendre pour entreprendre. Moi, il fallait qu'il y ait un sens.
Et le sens, c'est que vous avez toujours eu des chevaux. Et il y a une question à laquelle vous allez répondre à travers votre boîte, c'est comment réussir à garder un œil quand on a des chevaux et qu'on n'est pas près d'eux.
Exactement.
C'est de là que
c'est vraiment ça
démarre.
C'est que j'ai eu l'habitude de les avoir à la maison, donc entendre si quelque chose se passe dans les écuries, c'était vraiment à 50 mètres de ma chambre. Ce schéma a changé, et donc un système, tiens, il n'y a pas de système pour être alerté s'il y a un problème avec un cheval au milieu de la nuit.
Et c'est comme ça que ça a été la première idée pour votre entreprise. Pas seul, avec celui qui est devenu votre conjoint, qui est le cofondateur, Julien. Lui, il est informaticien, il est ingénieur, donc vous combinez les deux et ça donne Novo Senso.
Bien cela.
Mais maintenant, vous allez pitcher. Êtes-vous prête?
Allez, je suis prête.
C'est à vous.
Donc, chez Novo Senso, nous mettons la puissance de l'intelligence artificielle au profit du bien-être animal et des hommes qui s'en occupent. Novo Stable, c'est notre première application et elle est dédiée exclusivement aux chevaux. Il faut savoir que les chevaux sont des animaux assez fragiles. Ils ont besoin d'énormément de soins et d'attention. La première cause de mortalité chez les chevaux, c'est ce qu'on appelle la colique. Alors en fait, c'est un bouchon dans les intestins. Et ça demande une intervention extrêmement rapide si on veut avoir une chance de sauver l'animal. Bien évidemment, ça arrive souvent la nuit et au box. Donc Novo Stable, c'est une solution de surveillance continue et objective des chevaux au box. Et de manière non intrusive. Donc c'est à travers la vidéosurveillance. On a développé des algorithmes de vision intelligente qui vont analyser entre 2 et 4 millions de données par jour et par cheval. Et ça va nous permettre de détecter, voire même de prédire les problématiques de santé, aussi évaluer le bien-être et tout comme détecter les poulinages pour aider les éleveurs.
Pile une minute, je trouve ça passionnant. Merci de vous être prête à l'exercice du pitch. Victoria de Pomerol, CEO et cofondatrice de Novo Senso, avec votre solution qui s'appelle Novo Stable, c'est ça?
Exactement.
Votre regard autour de la table de la France bouge, qui veut réagir? Moi, je trouve ça formidable. Je ne suis pas cavalière et je n'ai pas de chevaux, mais c'est très clair.
Clairement, on est dans de la high-tech. J'avais
Pascal
déjà entendu
Gautran.
Parler de ce type de solution-là. Maintenant, associé à de l'IA, là, on est monté d'un cran, donc félicitations. Quoi.
Merci.
Anne-Sophie Bonnel, la coach de ce soir, présidente et fondatrice d'Orsicar.
Oui, c'est vrai qu'on touche à un sujet qui est hyper intéressant parce qu'en effet, comme Victoria le soulignait, les coliques, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les chevaux qui
vivent en mourir.
Et ils peuvent en mourir et le taux de survie n'est pas si fort que ça. alors qu'en effet, si on le prend à temps, on peut avoir des solutions. Et c'est vrai que se lever quand on a un cheval qui va pas bien toutes les deux heures dans la nuit, c'est quelque chose qui est très contraignant pour la personne qui vit à côté des chevaux. Donc c'est en effet une solution qui me semble vraiment pertinente.
Donc les points forts, c'est ça?
Ouais, les points forts, c'est que ça répond à un vrai besoin. parce que à la fois pour le bien-être des chevaux, pour avoir une meilleure prise en charge, et aussi pour le bien-être des soigneurs qui sont sur place, qui peuvent avoir des alertes, recevoir des alertes, et qui n'ont pas besoin de se déplacer dans le box pour voir si le cheval va bien.
Victoria, vous vous adressez à qui là, à ceux qui ont des aux propriétaires de chevaux, aux particuliers, aux centres équestres, quelle est votre cible?
Alors, à terme, on peut s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, les cibles qui répondent le plus, ça va être vraiment les professionnels de la filière. Donc, on va avoir les éleveurs, beaucoup, parce que ça, c'est un métier qui est très, très contraignant. Donc là, en effet, améliorer les qualités
donc
de travail.
Donc, c'est pour améliorer la pénibilité, en quelque sorte. D'accord.
Donc, c'est vraiment, comme disait Anne-Sophie, sur ce côté à la fois pour le cheval, mais aussi offrir réduire la pénibilité du travail de soins des chevaux.
Bien sûr.
Très prenant. Donc ça va être les éleveurs, les grandes écuries, les professionnels et aussi dans le milieu des courses. Donc on va être plutôt sur les chevaux athlètes aujourd'hui parce que c'est une nouvelle technologie et même si on est très raisonnable, ça a quand même un coût.
Combien c'est ?
Nous, on vend le service d'analyse et ça va coûter entre 20 et 44 euros par mois par box.
Donc votre modèle, c'est l'abonnement ?
C'est un abonnement.
D'accord. Vous en pensez quoi, Anne-Sophie ? C'est bien ce modèle, c'est éprouvé.
Oui, c'est un modèle qui est bien à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour la société, parce que ça fait des revenus récurrents. Je me pose la question du coup de savoir combien de box sont équipées par écurie cliente. Est-ce qu'on équipe un seul box pour quand il y a un cheval qui ne va pas bien, on le met dans ce box-là ? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit il faut que tous les chevaux soient surveillés et on équipe tous les box ?
Alors, c'est encore très varié aujourd'hui, parce que le marché est tout très nouveau. Hein. Mais on est en train d'augmenter. Donc, jusqu'à l'année dernière, on était plutôt sur un ou deux box, aussi pour tester, parce que c'est quand même nouveau. Et là, on est en train d'observer surtout des clients récurrents qui, du coup, se rendent compte que ça sert et qui équipent toute leur écurie. Donc, c'est vraiment en fonction de l'utilité de chacun, et aussi de la maturité d'utiliser ça au sein de son écurie.
Anne-Sophie, je crois que vous aviez des questions, notamment sur les caméras, il me semble.
Oui, alors
parce que c'est des caméras qui observent.
Alors, on utilise, en fait, c'est le moyen de récupérer la donnée.
La donnée, Anne-Sophie.
J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut se procurer aujourd'hui une caméra. J'ai essayé de trouver.
Vous intéresser. Vous avez des chevaux, Anne-Sophie, vous ?
Oui, alors j'en ai deux, mais bon, moi ils sont pas chez moi, donc il y a des personnes qui...
Il y a des gens qui...
Disons que je serais client indirect, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas d'ailleurs, c'est peut-être finalement le propriétaire du cheval qui décide d'équiper, mais il faut quand même l'accord, j'imagine, de l'écurie.
Il faut l'accord, évidemment, de l'écurie.
Mais j'aimerais savoir comment on peut s'en procurer, parce que j'ai essayé de chercher et j'ai pas bien trouvé l'information.
Alors ça, c'est un point que je prends pour améliorer.
On est là pour ça. On est là pas pour redonner des notes, mais pour améliorer et trouver des solutions. Donc, tout va bien.
aujourd'hui, il suffit de prendre contact avec nous.
Il faut passer par la case de vie.
Exactement.
D'accord.
Mais c'est un très bon point qu'il faudrait peut-être penser ça un peu plus intuitif.
C'est pas synthétif, ça fait partie des recommandations. Si vous êtes parmi nous ce soir, Victoria de Pomerol, je disais, l'entreprise, elle est née il y a 6 ans. Vos besoins aujourd'hui, elle marche, elle fonctionne bien, vous avez beaucoup de clients?
Alors, on commence à avoir des clients. Après, on est vraiment en mode start-up. Ça fait que 3 ans qu'on a lancé la commercialisation.
C'est pour ça qu'elle est récente, 6 ans.
C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'années de recherche, de tests, de surtout arriver avec une solution fiable.
Bien sûr.
Et dans l'IA et l'apprentissage, ça prend du temps. On commence à montrer une traction intéressante, en tout cas. Maintenant, on reste start-up, on n'est pas encore rentable. Ça s'est visé d'ici 2 ans. On a dû faire appel à des levées de fonds. On en a déjà fait pas mal et là on ouvre un nouveau tour pour pouvoir justement financer la croissance. Maintenant on a un produit qui est bien abouti, qui est stable, qui continue à évoluer, c'est de l'amélioration continue, mais qui a une très bonne base. Donc là, on est prêt à pouvoir grossir.
Alors, si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Il faut accélérer le développement commercial. Vous êtes en train de lever des fonds. Vous cherchez combien ?
1,5 million.
Anne-Sophie, comment fait-elle ? Vous avez la baguette magique.
Sur le développement commercial, moi j'avais en effet plusieurs recommandations. Mm-hmm. Je pense que c'est intéressant de se tourner vers des prescripteurs. Alors des prescripteurs en marketing, ce sont des personnes qui vont vous recommander, potentiellement des vétérinaires qui pourraient avoir un intérêt à ce que votre solution soit utilisée, soit parce que ça augmente le taux de survie, soit parce qu'ils sont intéressés financièrement, soit parce que ça leur permet d'intervenir plus rapidement, de manière régulière. Et je pense aussi qu'on est dans un milieu qui est encore, pas forcément hermétique au changement, mais en tout cas, on a des professionnels qui ne sont pas toujours, qui sont occupés par leurs préoccupations quotidiennes, qui sont vraiment sur le terrain et qui ne sont pas forcément au fait de toutes les avancées technologiques. Et le terme IA peut leur faire un peu peur.
Bah, mais c'est bizarre parce que je compare aux agriculteurs qui sont hyper ultra connectés. Je comprends pas que ce soit une population un peu plus frileuse.
Ça a commencé un peu plus tôt, je pense aussi. D'accord, dans l'agriculture, parce que nous, on a travaillé justement la première année sur les vaches laitières.
Bien sûr,
on a étudié plusieurs business models. Donc c'est vrai que ça a quand même un peu plus de maturité. Et aujourd'hui, en effet, je pense que c'est aussi le temps d'apprentissage.
Bien sûr. Je pense que dans le discours, alors bien évidemment, pour la levée de fonds, parler d'IA, c'est extrêmement pertinent. Mais par contre, vis-à-vis de vos clients, je pense peut-être plus axer le discours sur tout ce que vous allez leur apporter en termes de survie de l'animal, en termes de gains financiers, sur le bien-être, etc., plutôt que de rentrer tout de suite dans l'IA. Parce que c'est quelque chose qui peut faire un peu peur et ils n'ont pas forcément besoin de savoir exactement comment ça fonctionne. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qu'ils peuvent être assurés parce que la caméra fait le boulot pour eux et qu'ils vont recevoir des alertes.
Donc il faut rassurer, c'est ça que vous dites.
Voilà, rassurer et puis parler vraiment leur langage.
Ouais. Message reçu. Il y a encore des conseils.
Il y a encore plein de conseils.
Alors, on va les faire dans un instant. On va rester autour de la table de La France Bouge. On va continuer les conseils d'Anne-Sophie. On va rester avec vous, Pascal Gautrin, patron d'Ekia Sport. On va rentrer un peu dans le détail sur Pénélope, parce que Pénélope, c'est pas n'importe qui. Entreprise que vous avez rachetée en 2017. Et puis, on va découvrir une entrepreneur, enfin, la connaissance de Virginie Godin, qui a sa boîte de com, mais qui est aussi cavalière. Et elle est en train de combiner les deux. Elle va nous raconter comment. Mais d'abord, Alain Souchon, L'amour à la machine sur Europe 1. À tout de suite.
Passez notre amour à la machine. Faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant. Matisse l'amour, ces bleus difficiles, les caresses rouges, fragiles, le soleil de la vie les tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. De nos gentils petits grands-pères, noirs les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passer
couleurs d'origine, peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blanche qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine.
L'amour à la machine, c'est Alain Souchon sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. 21h, 22h.
Elisabeth Assayag.
J'ai rencontré Pénélope quand j'avais 13 ans, elle en avait 10, et on montait au Poney Club ensemble. Ce qui m'inspire chez Pénélope, c'est son élégance. Son élégance à pied, son élégance à cheval. Son équitation est vraiment source d'inspiration pour moi dans tous les produits, en fait. Des produits assez colorés, pétillants, mais élégants.
Et bienvenue, j'essaye si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Europe 1, dans la France Bouge, une France Bouge consacrée à l'équitation. Alors, si vous n'êtes pas fan d'équitation, peut-être n'avez-vous pas compris ce que vous venez d'entendre. En fait, on écoutait Céline Leroux qui nous parlait de Pénélope. Pénélope, c'est aussi une marque. Pourquoi ? Parce que ce soir, on parle équitation avec notamment Pascal Gautrin, CEO du groupe Equiasport. Pénélope, vous l'avez acquis en 2017. Racontez-nous.
Alors, c'est une rencontre, c'est une très très belle rencontre, puisque la marque existait déjà depuis 6-7 ans, et Céline, donc amie d'enfance de Pénélope, qui montait dans le même centre équestre.
C'était
en Normandie.
En Normandie, d'accord.
En Normandie. Et donc, folle de mode, de création, essayait depuis 6-7 ans de faire émerger cette marque-là, puis on s'est rencontrés par hasard, et puis en un après-midi, pratiquement, le deal a été bouclé.
Mais ils étaient vendeurs ?
Pas forcément, c'est vraiment une belle rencontre, puisque c'était, voilà, toi tu as des magasins, de la distribution, tu sais importer, tu sais concevoir, etc. Moi j'ai plein d'idées, puis voilà, surtout on a une icône fantastique, Pénélope, qui est cavalier d'une élégance rare, donc ben voilà, c'est la rencontre entre trois personnes, et puis le projet est parti comme ça, puis... La belle histoire continue, puisque maintenant on va à l'export, et puis on a créé une marque pour les juniors, qui est Eden, donc la fille de Pénélope, qui maintenant monte à un très haut niveau, donc une petite vingtaine d'années, donc je pense qu'on est parti pour quelques années de l'histoire.
Et alors, quand vous dites que vous avez racheté la marque, ça vend quoi ? C'est quoi Pénélope ? Ça vend quels produits ? Ça vend des...
Principalement du sportswear, on va dire, ou
d'accord,
du corps.
D'accord, donc on est sur les vêtements.
Iconique, le lion, que toutes les jeunes filles, vous voyez, avec une grande un blouson avec une grande capuche, avec de la fourrure autour, toutes les jeunes filles ont ça, avec le logo Pénélope sur la poitrine, et donc à l'époque, il faisait peut-être trois couleurs, on en a fait une petite dizaine, et puis c'est parti, quand vous mettez ça dans un réseau de 100 magasins, plus le B2B, etc., plus Internet.
Et ça fait partie de la croissance, de cette fameuse croissance de 40% de cette
exactement,
année.
Exactement.
Donc voilà, il se passe des choses dans cette filière, Anne-Sophie Bonnel.
Bah oui, il se passe beaucoup de choses, et finalement on a quand même pas mal d'innovations, même si on a du retard à rattraper sur...
Pourquoi chez nos voisins européens ou ailleurs, c'est déjà beaucoup plus développé ?
Non, je suis pas certaine, c'est par rapport à d'autres secteurs. On parlait tout à l'heure par rapport à l'agriculture, où en effet l'agriculture est finalement plus novatrice. Mais c'est vrai qu'en termes de textile, on a fait un bond qui est incroyable.
Oui, il y a du choix maintenant. Oui. Nous sommes toujours avec Victoria de Pomerol, la CEO et la cofondatrice de Novo Senso. C'est de mettre l'intelligence artificielle au service du bien-être animal. Elle a des besoins, et on était en train d'en parler avec vous, Anne-Sophie Bonnel, la coach de la France Bouge, notamment concernant sa stratégie commerciale. Comment faire ?
Oui, c'est ça. Parce que je crois que vous souhaitez vous développer à l'international. Ce que j'ai bien compris. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de, pour la distribution, c'est de vous appuyer sur des acteurs locaux pour avoir de la vente indirecte via des distributeurs qui sont déjà implantés, ce qui permet d'aller plus vite et puis de consommer moins de cash, même si vous allez lever des fonds pour ça.
Quand on lève des fonds, c'est pour avoir du cash.
Exactement.
Qu'on rappelle.
Trésorerie pour investir. dans les différents secteurs.
Mais comme Victoria est issue d'une formation financière, je pense qu'elle saura gérer justement cette arrivée de cash. Et en effet, c'est vrai que s'appuyer sur des partenaires locaux, ça permet de faciliter la distribution. Et puis aussi d'avoir des distributeurs qui peuvent devenir prescripteurs parce qu'ils vont pouvoir recommander auprès de leurs clients votre marque. Et ce qui me semble important quand on va à l'international et qu'on s'appuie sur des distributeurs, c'est de conserver un bon service client. Ça, c'est extrêmement important pour la notoriété de la marque. Et donc peut-être avoir une procédure bien établie sur tout ce qui est SAV. Et peut-être même en interne avoir une équipe qui est vraiment dédiée à l'animation de ces distributeurs pour avoir quelque chose qui est relativement centralisé, uniformisé et être sûr d'avoir un bon service client qui ne dépend pas uniquement de vos distributeurs mais que vous puissiez le maîtriser.
Tout à fait.
C'est bien.
Oui, oui. Hein, ça, l'expérience client est vraiment très importante pour nous. Mmh. On a aussi pu commencer une croissance parce qu'on est très attentif au retour client. Et c'est un nouveau produit qui est quand même technologique, donc il y a tout un onboarding qui est quand même important pour que les clients aussi utilisent vraiment bien et puissent bénéficier de tous les avantages de notre service.
Vous avez fait toutes les recommandations qu'il fallait, Anne-Sophie. Elle peut arriver à être rentable rapidement?
Bah oui, je pense. Alors après, sur une start-up qui a besoin de R&D, c'est normal, en fait, d'avoir une rentabilité qui est un petit peu plus lointaine que sur une start-up qui n'a pas besoin de R&D. Mm-hmm. Mais oui, clairement, je pense qu'elle va clairement rencontrer son marché et donc du coup, ça va lui permettre d'être rentable dans les prochaines années.
Pascal Gautrin, vous voulez peut-être ajouter quelque chose pour Novo Senso sur la start-up de ce soir sur Europe 1?
Non. Alors nous, on n'est pas très start-up.
Oh, vous avez quand même acheté Pénélope, hein. Voilà.
Oui.
Et un pure player, quand même.
Je vous écoutais, je me disais comment on pourrait nous transformer en tant que distributeur avec des magasins, et j'ai pas encore trouvé, donc faut me laisser un petit peu de temps.
Ouais, vous reviendrez nous en parler. Nous, vous savez, dans la France Bouge, on aime les audacieux, ceux qui franchissent le pas. Donc gros plan sur, elle était journaliste, elle est devenue entrepreneur, et maintenant elle se spécialise dans le sport équestre au sein de son entreprise.
Europe 1, la France bouge. Elle a osé.
Bonsoir Virginie Godin, rebonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Donc vous êtes la cofondatrice, la directrice générale de Vue Paris, qui est une agence de com, qui a combien d'années ?
Communication digitale, qui a 10 ans maintenant.
Qui a 10 ans. Et si vous êtes parmi nous ce soir dans la France bouge, c'est parce que vous êtes une cavalière. Vous avez un parcours un peu particulier, puisque vous êtes devenue cavalière, je crois qu'autour de 18-20 ans, vous avez commencé ?
Absolument, moi je ne suis pas du tout issue d'un univers équestre, donc pas du tout familière de cet univers-là, et j'ai commencé à monter effectivement extrêmement tard. J'ai découvert les chevaux adolescentes et j'ai dû attendre de commencer ma carrière et de commencer à travailler pour pouvoir me payer un cheval ou en tout cas des cours d'équitation. Et donc j'ai commencé très tard et depuis j'ai beaucoup travaillé pour attraper un peu mon retard.
Vous avez fait quoi comme études?
Je voulais être journaliste moi, donc j'ai fait des études assez classiques. J'ai fait une prépa Hippocagne, ensuite j'ai fait une grande école qui s'appelle l'école supérieure de journalisme.
Ouais.
Et ensuite j'ai commencé en presse écrite, pas mal en digital.
Et ensuite vous avez monté votre entreprise qui s'appelle Vue de Paris.
Oui.
Donc vous êtes entrepreneur, vous êtes cavalière et vous avez eu envie de mettre aussi votre passion dans votre business. Qu'est-ce que vous avez mis en place?
En fait, il y a eu un besoin qui s'est fait sentir assez naturellement. Comme vous le disiez, je suis cavalière, donc je fais beaucoup de concours le week-end, donc je travaille la semaine.
Donc professionnelle, quasiment.
Je sors au niveau amateur élite, donc c'est élite, des belles compétitions, mais ça reste un loisir pour moi.
Mm-hmm.
Mais néanmoins, effectivement, je fréquente cette filière-là de très près, et donc il y a un besoin assez naturel qui s'est fait sentir auprès des organisateurs de concours, aussi bien auprès des cavaliers, aussi bien des marques. Je ressentais un vrai besoin de se faire accompagner. On l'a beaucoup dit autour de cette table, mais il y a un vrai retard dans la filière équestre sur la communication et sur les enjeux digitaux. Donc les cavaliers, un petit peu par la force des choses, sont devenus des créateurs de contenu, des influenceurs comme on pourrait les appeler aujourd'hui.
Il y en a beaucoup sur le marché, des influenceurs cavaliers
Il y en a de plus en plus. On l'a beaucoup dit aussi aujourd'hui, c'est une passion l'équitation qui fédère énormément. Donc évidemment, il y a énormément de personnes et de plus en plus qui partagent cette passion-là sur leurs réseaux sociaux. Donc aussi bien à tout petit niveau dans les poney clubs qu'au plus haut niveau. Où là, effectivement, on parlait de Pénélope, mais tous les grands cavaliers sont suivis sur les réseaux. Et du coup, de ce fait, deviennent fédérateurs du contenu par la force des choses.
Mmh.
Ils doivent fédérer une communauté, ils doivent communiquer un message, alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça, c'est pas leur métier. Eux, ils savent monter à cheval et on leur demande aujourd'hui d'être des créateurs de contenu, en fait.
Donc, vous les accompagnez. Comment réagissent-ils? Comment on vous voit venir? Est-ce que vous avez maintenant pu développer votre projet, cette entité-là de votre entreprise?
Alors, ce département est tout récent, mais je pense que...
C'est-à-dire tout récent?
Ça fait quelques semaines qu'on l'a officiellement
inauguré.
Ah oui, donc
c'est tout jeune.
Ça fait quelques années en réalité qu'on accompagne les concours et que c'est une toute petite partie de mon activité. Mais c'était plus effectivement ce côté un petit peu passion. Aujourd'hui, c'est structuré au sein d'un véritable département qu'on a appelé Veille Équestrienne. Et donc, qui combine trois divisions. Une division cavalier, donc qui sont les créateurs de contenu, les talents. Une division marque, donc marque hors équestre et équestre.
Donc peut-être Ikea. Qui sait?
On travaille avec des céleries déjà, effectivement.
Ouais.
Et il y a un troisième département qui sont du coup les organisateurs de concours, qui ont un vrai besoin de faire connaître leur concours, de faire venir des célébrités ou des personnalités publiques, parce que mon premier métier, c'est ça, c'est de gérer des marques, d'accompagner des marques et de représenter des talents, d'être agent de talent.
Donc, vous êtes en train de professionnaliser en termes de communication toute cette filière équestre. Pascal Gautrin, vous êtes le patron du groupe Equasport, vous nous le disiez tout à l'heure, 300 salariés. Il y a une particularité chez vous aussi avec les salariés.
Vous voulez parler de l'actionnariat, j'imagine ?
Absolument. Vous avez créé un fonds commun de placement d'entreprise pour vos salariés. C'est-à-dire que tous les salariés du groupe sont actionnaires. Ça aussi, c'est une particularité.
Exactement. Alors, on est effectivement très, très fiers. C'est tout récent. Hein. On fait partie d'un fonds d'investissement, UI Investissement, qui nous suit depuis 2011. Et ce sont des discussions qui, au fil de l'eau... se sont développés, c'est-à-dire que le management était d'abord actionnaire et puis au fur et à mesure de notre développement, puis fort du succès qu'on a pu avoir ces dernières années, on s'est dit pourquoi pas lancer ce FCPE, et on est assez fiers puisque dans les ETI de notre taille, on fait partie des 1% des sociétés, donc sur 150 000 ETI en France, à avoir fait un fonds commun de placement.
Donc ils sont tous actionnaires.
Tous les salariés du groupe sont actionnaires. Donc il y a eu la distribution de la part de l'entreprise, de la part du groupe. Et puis après, il y a eu un système d'abondement auquel 74% des salariés ont décidé de participer. Donc maintenant, tout le monde est... J'irai loger dans le même bateau et intéressé par le développement du groupe.
Donc, tout le monde est actionnaire de l'entreprise. J'imagine que dans un métier où c'est la passion qui les lie tous les uns les autres, proposer une telle avancée, ça a dû leur... quelle a été leur réaction?
Oh ben forcément positif.
Parce que bien sûr, c'est pas commun.
Les conditions étaient exceptionnelles. Donc déjà, on a fait quand même une distribution gratuite. Et puis... je dirais les gens étaient, enfin notre personnel était passionné avant même cette distribution et cette initiative. C'était gérer la récompense de nombreuses années, parce qu'on a une particularité dans le groupe, c'est qu'on a très très peu de turnover. Donc on a des salariés qui ont 20-25 ans, 30 ans d'ancienneté, qui ont toujours la même passion, donc sont encore présents avec nous. Donc c'est une récompense de développement.
Quand vous dites qu'il y a peu de turnover, il y a même des générations qui succèdent.
Ah oui, bien sûr. Oui,
mais racontez-nous, vous êtes à Agno, hein, vous êtes situé près de Strasbourg.
On est effectivement à Agno, oui.
Mais racontez-nous ces histoires, il y a des familles, des générations, des mères, les filles qui viennent.
Ce que vous faites, ce dont vous parlez, c'est clairement notre clientèle. C'est-à-dire que chez PAD, effectivement, depuis 1974, vous avez des mamans, enfin les...
Non mais je parle des salariés.
Ah ben des salariés, non, on n'a pas des familles non plus de...
Non mais pourquoi pas.
De mère en fille qui viennent.
Vous dites qu'il y a peu de turnover.
Non, on a peu de turnover, effectivement, des gens qui ont 30 ou 40 ans de société. Enfin donc, moi j'en ai 39, donc vous voyez, ça fait, je connais un seul groupe.
Et
donc.
Toujours pas cavalier, pourquoi ça?
Ah non, toujours pas, non, déjà faute de temps, et puis bon... voilà, je m'explique pas pourquoi.
Il y a que vous et le DAF. Non, le reste, ils sont tous cavaliers.
Aussi qui n'est pas cavalier, mais les autres sont tous cavaliers, effectivement.
C'est bientôt la fin de La France Bouge. Victoria de Pomerol, vous êtes la cofondatrice de Novo Senso. La suite, c'est quoi une fois que vous allez être à l'export, à l'international?
Bah, la suite, on a énormément de nouveaux produits aussi en développement.
En R&D,
thermique, le son. Voilà, il y a encore énormément de choses à faire. On n'est qu'au début de
la grande aventure
équestre. Beaucoup dans ce domaine où le marché est vraiment important.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Pascal Gautrin, CEO du groupe Equasport pour les magasins PAD. Merci d'être venu ce soir sur Europe 1. Merci à Victoria de Pomerol, CEO cofondatrice de Novo Senso. Virginie Godin, merci. Bonne chance pour la nouvelle entité de Vue Paris, cofondatrice et directrice générale et cavalière, évidemment. Et merci Anne-Sophie.
Avec plaisir.
Anne-Sophie Bonnel, fondatrice et présidente de Orsicar. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1. Dans un instant, c'est le journal de 22h présenté par Maëlle Hassani. Tout de suite après, Vous avez entendu les années top 50 avec Omblin Roche. Bonsoir Omblin.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Semaine spéciale sur Europe 1, semaine de la grande famille Europe 1.
C'est la grande famille Europe 1.
On vous invite, chers auditeurs, à venir visiter Europe 1, les coulisses. Il y a des journalistes qui sont invités dans les émissions des uns des autres. Cette famille, on a envie de la mettre en avant avec une chanson qui s'appelle Famille, tout simplement.
Jean-Jacques Goldman.
Absolument, Jean-Jacques Goldman, 1985, l'album non homologué. Également Annie Cordy avec Tata Yo-Yo et puis The Verve, l'album, le single Bittersweet Symphony est sorti un 16 juin, c'était en 1997.
On va se régaler comme chaque soir sur Europe 1. Excellente soirée à toutes et à tous.
Bonjour, c'est Pascal Praud, je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Praud et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Oui, bonjour Pascal.
Ils nous ont déclaré la guerre. C'est insupportable d'entendre un discours pareil où on se voile la face et on ne fait rien.
C'est un plaisir de vous avoir et surtout un plaisir de vous écouter.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Praud et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je